Vous êtes sur RTL.
Quel pro. Il y a des profs qui jettent l'éponge. Nous sommes avec Albéric, directeur d'école. Est-ce que tous vos enseignants sont là, Albéric, ou est-ce qu'il y en a qui ont du vague à l'âme ?
Non, les miens sont super motivés et super contents.
Bon, bah, on va parler de cette belle et noble profession. Amandine le rappelle des titres.
Et elle a eu déjà 3000 suspensions 24 heures après l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire des soignants. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a fait ce matin un premier bilan sur RTL. Emmanuel Macron, lui, a dévoilé une série de mesures pour mieux protéger les travailleurs indépendants. Ils sont près de 4 millions en France. Leur patrimoine personnel notamment ne pourra plus être saisi. Marks & Spencer, la chaîne britannique, annonce la fermeture de 11 magasins en France au cours des prochains mois, soit plus de la moitié de ses sites dans notre pays. La raison, des problèmes d'approvisionnement liés au Brexit. Et puis vigilance maximum dans le sud-est après la journée noire d'hier. 9 personnes, je vous le rappelle, sont mortes noyées en se baignant en Méditerranée. 9, dont 5 dans l'Hérault. La météo, justement avec vous, Peggy Broche, ça reste encore bien instable dans le sud.
Oui, Amandine, du sud-ouest aux frontières de l'est avec des averses et encore des orages plus localisés. Alors, sauf sur le Languedoc où le ciel se dégage, il va laisser passer quelques éclaircies dans l'après-midi. Et entre la façade atlantique et les régions au nord de la Loire, là, c'est le retour d'un temps plus calme, plus lumineux, avec un soleil plus franc sur les côtes de la Manche et Atlantique. Les températures, elles sont de saison. 19 à Cherbourg, 21 à Strasbourg, 22 à Lille, 23 à Paris, Ambérieu, Limoges, Toulouse, 26 à Marseille, 27 à Perpignan et 30 degrés à Ajaccio.
Et demain, amélioration pour tout le monde.
Oui, ça fera du bien. Alors, même si le matin, c'est vrai que le temps sera souvent gris, avec quelques rares averses encore allées du sud-ouest en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Au sud et au nord de cette zone, de belles éclaircies, peut-être quelques plaques de grisaille entre la Normandie et la frontière belge, mais ça va très vite se dégager. Puis dans l'après-midi, un ciel lumineux pour tous, un peu plus de nuages au nord qu'au sud, c'est vrai, mais globalement ce sera agréable. Et puis une petite averse possible en montagne et l'arrivée d'une nouvelle perturbation.
Et voilà, profitez-en demain.
Ah oui, parce que
par
samedi,
la Bretagne, ça va
soleil
pas
ou
mieux,
pas samedi?
Alors, pas pour tout le monde. Voilà.
Bah non, c'est le week-end.
Mais dans l'ouest, soleil?
Eh ben non, dans l'ouest, non, justement.
D'accord.
Dans l'ouest, le temps sera gris.
Donc, changez vos plans, Pascal.
Vous allez à Paris, soleil?
À Paris, ce sera peut-être un peu mieux, mais c'est très incertain.
Bon, alors, il
n'y
aura pas de soleil du tout.
Mais si, il y en aura à Paris.
En Corse?
Ce sera
non plus.
Ah bon, mais vous ne me dites pas pour
non,
tout le monde.
Sur l'est, il y aura du soleil.
À Metz, il y aura du soleil.
À Metz, il y aura du soleil.
Bon,
en région parisienne, ce sera un ciel plutôt variable. Et sur tout l'ouest, où vous irez certainement en week-end, si j'ai bien compris.
Non, je resterai à Paris, mieux, justement, puisque comme il ne fait pas beau, je vais rester à Paris.
Eh bien, vous avez bien raison.
Merci, Peggy.
Et merci, Amandine.
Merci à vous.
13h04.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
Les démissions de professeurs ont été multipliées par 4 en 10 ans. Alors, évidemment, quand on dit le chiffre comme ça, ça fait peur. Mais en même temps, ce ne sont que 7600 profs en 10 ans. C'est pas la tendance est haussière, c'est ce que nous disait Marie Guerrier, mais ça reste quand même extrêmement marginal. Il y a 800 000 profs, il y en a 7600 qui ont arrêté entre donc 2011 et 2021. On est avec Albéric, qui est directeur
bonjour
d'école. Rebonjour.
Bonjour, papa.
Je voudrais une radiographie du mental des profs que vous croisez dans votre école.
Alors, dans mon école actuelle, qui est une réponse à une crise dont j'ai été témoin, je ne vous les décrirai pas. Mais par contre, je vais vous décrire ce que moi j'ai rencontré dans un établissement privé sous contrat prioritaire. J'ai un élève qui arrive en larmes dans mon bureau et qui me dit « j'en peux plus, d'abord on ne comprend pas, j'en ai marre, etc. Et puis on m'envoie chez vous parce que le professeur peut plus me saquer. » Alors j'ai dit « bon, on va se poser un peu, on va se calmer, vous allez dans le couloir tranquillement, je vois votre prof et on voit. » Le prof rentre et j'ai un prof dans le même état que l'élève, Pascal. En larmes, il n'en peut plus. Il ne supporte plus, mais pas seulement cet élève-là. Il ne supporte plus la classe, il ne supporte plus la condition dans laquelle il était. Et je lui dis, mais pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi cette école.
Mais alors,
et donc,
c'était, dans
dans
c'était dans quel type d'école ? C'était dans quel
type ? Prioritaire.
Donc dans un, dans une, d'accord.
Voilà.
Donc là, disons les choses où parfois les conditions d'enseignement sont plus difficiles.
Il y a une chose que vous avez dite, 7500 professeurs, Pascal, vous avez dit, bon, c'est pas quand même énorme et
7241.
Il y a 7241 êtres humains,
oui,
personnes humaines, qui éveillent l'avenir de notre société, c'est-à-dire des personnes humaines qui seront des adultes de demain. Donc, chaque personne a une valeur capitale, d'autant plus que non seulement par sa qualité, par son potentiel, mais par sa formation.
Non, mais c'est même pas 0,1%.
C'est ça qu'on ne reconnaît pas. C'est ça qu'on ne reconnaît pas.
Attendez.
Et c'est ça que les professeurs ne supportent plus. Ce sont des machines à transmettre un programme qui, toutes les 3 ans, est systématiquement modifié. Donc, quand ils ont à peine fini d'être formés pour transformer le programme qui a été décidé par le gouvernement précédent, de toute façon, on leur annonce que ça va encore changer, parce que c'est encore la mode. Et donc, ces personnes malmenées sont mal payées, mais ne sont même pas considérées dans leur art de transmettre, de communiquer, d'éduquer. Ils ne sont pas respectés dans le fait qu'ils ont pris des années entières à travailler et surtout à approfondir des connaissances pour les transmettre.
Non, mais je suis d'accord avec vous.
Il faut être super formé pour pouvoir se vulgariser un enseignement et rejoindre son élève.
Je suis d'accord avec vous et ça devrait être... le pilier des investissements, l'éducation nationale. Et
mais quelle négligence sociétaire, quelle négligence économique et humaine.
Mais je suis d'accord avec vous, mais en même temps, il faut aussi dire les choses. C'est-à-dire qu'un enseignant français travaille dans une classe un peu moins que ses collègues. On est plutôt sur 18 heures en France. Les chiffres qui sont donnés en Allemagne, c'est généralement 28 heures. Il y a une retraite qui est plus tardive également. C'est-à-dire qu'en France, elle est plutôt vers 65 ans. En Allemagne, elle est plutôt à 65, 67 ans. Chez nous, c'est 61. Il y a moins de vacances également en Allemagne. Les Allemands ont 10 semaines de vacances. En France, il y a 15 semaines. C'est pour ça que c'est des sujets toujours qui sont complexes. Mais votre témoignage, vous allez pouvoir le poursuivre dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On parle de la difficulté d'être prof. C'est vrai qu'il y a plus de démissions qu'avant, même si ça reste modeste. 7241 sur près de 900 000 enseignants. Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et vous l'avez dit, c'est l'un des sujets du jour. Les démissions de professeurs ont été multipliées par 4 en 10 ans. C'est une enquête RTL.
Majoritairement, ça touche les profs stagiaires. Ils viennent d'avoir leur concours. C'est leur première année où ils ont une classe à charge. Mais on voit aussi que le nombre de démissions augmente chez des professeurs qui ont plus d'expérience. C'est une tendance indéniable avec davantage de démissions en école primaire qu'en collège et lycée.
Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le métier ne fait plus rêver? À qui la faute? Le comportement des élèves, les réactions des parents, le manque de soutien de la hiérarchie? Albéric, directeur d'école, a été le premier à réagir au standard.
Ce sont des machines à transmettre un programme qui, toutes les 3 ans, est systématiquement modifié. Ces personnes malmenées sont mal payées, mais ne sont même pas considérées dans leur art de transmettre, de communiquer, d'éduquer. Ils ne sont pas respectés dans le fait qu'ils ont pris des années entières à travailler et surtout à approfondir des connaissances pour les transmettre.
Nos professeurs sont-ils mal payés? Avez-vous démissionné de votre poste d'enseignant? Avez-vous déjà craqué? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui au sein de l'éducation nationale? 3210, 3210.
Albéric va rester avec nous, il est directeur d'école. Je trouve son constat un peu sévère. Je trouve que les parents d'élèves que nous sommes sont parfois admiratifs, respectueux, reconnaissants du travail qui est fait. Et j'espère que ce message est parfois transmis, aux enseignants de la même manière. Il y a des élèves qui sont reconnaissants et donc qui disent à leurs profs tout le bien qu'ils leur ont fait. Alors on est avec Marc qui est enseignant, Albéric reste avec nous bien sûr. Vous avez démissionné Marc, bonjour.
Bonjour Pascal.
Pourquoi vous avez démissionné?
Si vous voulez, moi après mon doctorat, j'ai toujours été attiré par l'enseignement. J'ai enseigné durant ma thèse en faculté, ça m'en avait plu. J'ai envisagé un temps de faire carrière dans l'éducation nationale. J'ai fait 6 mois et j'ai tout de suite compris que c'était pour moi c'était impossible parce que c'est un travail de police, c'est un travail de psychologie, on n'est plus du tout respecté. Donc.
Mais ça s'est passé quand ça, Marc? Parce que je vois que vous avez 48 ans, c'était pas aujourd'hui.
Non, c'était en 2004-2005.
Et vous aviez quel type de classe?
Alors j'avais une classe, j'avais un lycée professionnel qui, bien sûr, ce ne sont pas les classes les plus faciles parce que c'est, moi j'étais enseignant en maths et physique, donc c'est pas des matières qui les intéressent énormément. Mais c'était un lycée professionnel dans une petite ville alsacienne, très très tranquille, où il n'y a pas de problème de. Enfin, qu'on pourrait trouver dans les banlieues ou des choses comme ça, mais c'était infernal.
Mais parce que vous n'avez pas le feu sacré, parce que vous pensez que vous n'êtes pas fait pour ça, ou parce que c'est impossible, selon vous ?
Si vous voulez, Pascal, je pense qu'en France, il faut que les gens comprennent, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, un professeur, il n'est pas là pour être psychologue, il n'est pas là pour motiver les gens, il est là pour passer un savoir.
Ah oui, mais il faut un peu des deux, j'imagine, il faut un peu de psychologie. Si vous partez comme ça, vous n'avez pas des machines en face de vous.
Ah oui, mais quand vous avez des gens qui montent sur les tables, qui dansent, et si vous... Vous savez, j'ai tout essayé. Hein, j'ai tout essayé. Et je vais vous dire quelque chose qui est quand même très intéressant. J'avais repéré trois meneurs. Un jour, je me suis dit, je vais les virer. Bon, j'ai viré les trois. Et puis, comme les meneurs n'étaient plus là, eh bien, il y en a quatre qui étaient plutôt calmes, qui se sont mis comme meneurs. Alors, je les ai virés encore. Et puis, on a continué comme ça. Et à la fin, il n'en restait plus que trois. Et bien, les trois que j'avais en face de moi, sur les trois, il y en avait encore un qui commençait à mettre du bazar. Donc, vous savez, je pense qu'à un moment donné, il faut faire comprendre aux gens qu'être élève, c'est recevoir des connaissances. Et il faut travailler chez soi, parce que le prof ne peut pas faire comprendre des notions à 35 élèves. Il faut que les élèves acceptent de travailler chez eux. Il faut que les parents le comprennent.
Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Marc ?
Alors aujourd'hui, je suis dans l'enseignement toujours, mais je suis dans l'enseignement particulier, et je vois que le niveau
c'est plus facile. Donc là, vous faites, vous avez un élève à chaque fois.
J'ai un élève à chaque
donc
fois.
Donc a priori, ils montent pas sur la table et ils dansent pas.
Voilà, et puis en plus, ils sont motivés, mais.
Mais vous faites que ça.
Je fais que ça, voilà. Mais ce que je constate, c'est que le niveau est en train de baisser d'une manière catastrophique. Et ça, personne ne le dit s'il y a
Tout le monde le dit, au contraire, que on même et notamment en maths, paraît-il qu'il y a un classement régulier où on est dans les choux, on est à la 25e place. C'est le comment s'appelle ce classement,
oui,
Marc ?
Le classement PISA, oui.
Voilà, le classement PISA. On est vraiment dans les choux et dans un monde numérique qui s'annonce qu'on soit aussi mauvais en maths, et paraît-il une catastrophe.
C'est une catastrophe parce que je pense qu'à un moment donné, nous n'aurons plus assez de compétences dans notre pays pour faire fonctionner un pays qui est technologique comme le nôtre. Je pense que ça sera catastrophique. Et vous savez, il n'y a pas que le problème des... Alors, les élèves, bien sûr, ne peuvent rien, parce qu'ils subissent 40 ans d'idéologie complètement mortifère, enfin, de l'éducation nationale, complètement extravagante. Mais le problème, c'est que les profs aussi, maintenant, subissent cette baisse de niveau, parce que vous savez que maintenant, le dernier reçu au CAPES de maths a eu 5 de moyenne. Et je peux vous assurer qu'il y a 20 ans, quand je regardais les sujets de CAPES de maths, je me disais que si je devais le passer... Parce que je pensais le passer, ça me demanderait un petit peu de remise à niveau, un peu de travail. Aujourd'hui, le CAPES de maths, je le prends, je le fais, j'ai 15. Sans réviser, sans rien.
Marc, pour préciser ce que vous venez de dire, il y a des profs de maths qui ont eu le CAPES ces derniers mois et qui ont eu 5 de moyenne ?
Le dernier reçu au CAPES de maths a eu 5 de moyenne.
C'est
la moyenne générale du CAPES de maths, c'est 8.
On a notre chance, Pascal.
C'est intéressant, on va peut-être être prof de maths, alors. Mais bon, écoutez, même moi, je dis souvent ça à l'antenne, je ne peux pas vérifier ce que vous me dites. Je n'ai pas les moyens de le vérifier. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est vrai, forcément. Vous savez de quoi vous parlez. Mais je m'étonne simplement que des gens qui passent le CAPES, c'est une note si faible. Et puis après, ils vont enseigner à nos enfants. Il est 13h18. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Ah oui, ça c'est sûr, chaud d'ambiance lundi soir. Les 189 médaillés, Pascal, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo sont venus à l'Elysée, une cérémonie en leur honneur. Ils étaient heureux, fiers de leur parcours, de leur réussite. Mais Emmanuel Macron, vous allez l'entendre, s'est transformé en professeur ou en coach, vous choisissez.
Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses. En vérité, je ne suis pas de ceux qui se fixent pour ambition de faire au moins aussi bien. Je vous le dis très clairement, on doit faire beaucoup plus. beaucoup.
Il y a de la joie.
Non mais c'est incroyable. Je vous assure, moi je le dis d'autant plus que je suis passé à côté de cette intervention du président Macron. Je l'ai découvert un petit peu en retard. Je trouve ça incroyable ce qu'il a dit. Vraiment, et je trouve ça incroyable que ce soit si peu repris dans la presse. Parce que si un homme... dans, j'allais dire, comment dire ça en prenant des précautions oratoires, mais si un homme dans une dictature disait cela, que les sportifs doivent être au service de la nation et doivent avoir de meilleurs résultats, on pourrait...
Et je rappelle quand même notre palmarès, 33 médailles pour les Jeux Olympiques, 54 aux Paralympiques. Quand même.
Mais on pourrait imaginer qu'il est dans son rôle. Mais là, c'est quand même un président qui dit aux sportifs qu'il reçoit, vous avez été nul, vous n'êtes pas bon et je dois vous le dire parce que vous n'êtes pas l'honneur de la France.
Alors qu'ils ont gagné.
Mais c'est très, franchement, cette sortie est très étrange. Alors, vraiment, elle est très peu commentée. Alors parfois, l'info, curieusement, ça part et puis elle sera peut-être plus commentée demain et puis ça sera peut-être une polémique après-demain, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous pouvez déjà réagir au 32-10. On termine avec les profs, peut-être. Nous sommes avec Christine, qui est secrétaire de direction dans un collège. Bonjour Christine. Et oui. Albéric et Marc sont toujours là, hein, s'ils veulent réagir ou dire des choses. Les micros sont ouverts. Allez-y Christine.
D'accord. Oui, bonjour Monsieur Pro. Moi, je voulais intervenir sur différentes casquettes, à la fois mon travail secrétaire de direction. Je suis maman, je suis mamie également, et on oublie de dire que quand même, si des élèves ne se tiennent pas correctement en cours, il y a quand même un rôle des parents qui est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un manque d'éducation des parents qui est très important. Parce que si un enfant qui a deux ans, qui n'a pas un cadrage tout au long de son enfance et de son adolescence, il ne peut pas être cadré quand il est en classe, d'une part. Deuxièmement, on est de plus en plus dans l'époque de l'enfant roi, et quand un professeur met une retenue parce qu'un enfant a été dissipé, le parent va vouloir toujours justifier le manque de comportement de son enfant. Il y a toujours
une réalité, ça. C'est-à-dire que les parents contestent, vous qui êtes vraiment en première ligne, les parents viennent contester l'autorité du prof.
Oui. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Leur enfant ne fait jamais de bêtises. Mais si la bêtise, elle est prouvée. Si ça mérite retenue, l'enfant doit faire une retenue.
Mais bien sûr, mais c'est comment dire, c'est des phénomènes particuliers ou c'est des phénomènes généraux ?
Ben, ça augmente de plus en plus. Moi, là, ça fait depuis 2004 que je suis dans le collège, donc je vois bien l'évolution. Et j'ai moi-même des enfants et des petits-enfants, et je vois bien que l'éducation des enfants n'est pas la même pour mes enfants.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est majoritaire ou pas ? C'est ça qui m'intéresse, ou ça reste minoritaire ?
Non, ça augmente de plus en plus.
Oui, mais vous ne répondez pas à ma question, Christine. Vous dites
que
ça augmente, mais...
Je vais pas vous dire que c'est majoritaire, mais ça augmente.
Voilà, ça reste quand même la contestation... Non, mais je suis d'accord avec vous, mais la contestation reste minoritaire.
Oui, mais elle existe, et elle évolue... Voilà, et de fait, les réseaux sociaux, ça augmente encore plus les problèmes.
Bah écoutez, non, mais ça, c'est un phénomène que chacun constate. Ce qui est sûr, c'est que nous, on se souvient tous de nos parents. Moi, j'ai souvenir, allant dans des réunions de profs, où mes parents disaient aux profs, vous avez toute l'attitude pour reprendre Pascal, faire ce que vous voulez, etc. Donc, il y avait transmission de l'autorité, et donc tu mouffetais pas quand tu étais enfant, parce que tu savais que tu serais pas défendu à la maison.
Mais là, il n'y a pas les mêmes marques de respect pour les enseignants, c'est pas pareil.
Je suis d'accord avec vous. Comment vous expliquez ça, Christine ?
Bah, c'est la société qui évolue.
Oui.
La société, elle évolue. Les professeurs sont peut-être pas assez formés au niveau de la pédagogie. Tout à l'heure, j'entendais le professeur qui disait que les élèves montaient sur les tables. C'est peut-être pas de sa faute. C'est de la faute de l'institution qui a pas formé les professeurs en fonction de l'évolution de la société.
Oui, c'est alors. Mais moi, souvent, j'ai une grille de lecture. On tire le fil de l'autorité et on a toute la société française. Alors, pourquoi cette autorité a-t-elle disparu ? Pourquoi plus personne n'accepte l'autorité en France, ni dans une rédaction parfois, ni dans un vestiaire de football, ni dans une classe maternelle ? Faudrait des analyses sociologiques très, très, très longues, sans doute, mais manifestement, ce qui était possible il y a 30 ou 40 ans ne l'est plus aujourd'hui.
Il
faut s'adapter. Ben, merci Christine. Flavienne, je crois que c'est la première fois que nous avons une jeune femme qui s'appelle Flavienne.
Bonjour.
Bonjour Flavienne. Je connaissais Flavien, je connais des Flaviens, mais point de Flavienne.
Et ben voilà, première, il en faut une.
Et vous avez rencontré des Flaviennes dans votre vie ?
Alors moi, je n'en ai jamais rencontré, mais je sais qu'il y en a une en Bretagne qui porte et le même prénom que moi et le même nom que moi.
Elle a le même nom que vous et le même prénom.
Absolument.
C'est votre double.
Oui, en Bretagne. Oui, bon. Bah écoutez.
Voilà. Vous habitez Mérignac?
Oui.
Et vous étiez prof et vous ne l'êtes plus?
Et non, j'ai démissionné l'année dernière.
Oui.
Au bout de 12 ans. Donc voilà, moi j'étais enseignante et directrice d'école. Et je veux dire déjà qu'il y a une grande différence entre le premier degré et le deuxième degré. Donc quand on compare avec les systèmes étrangers, il faut vraiment faire attention à ça. Et ensuite, alors certes, les enfants ont certainement évolué, les parents ont certainement évolué, mais pour moi, le problème numéro un, ce n'est pas celui-là. Pour moi, le problème numéro un, c'est l'institution.
Eh bien, vous allez continuer cette analyse qui est intéressante juste après la pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pou.
Laurent Tessier.
Un autre sujet peut vous faire réagir au standard. Faut-il alléger le pass sanitaire ou même le supprimer dans certaines régions avant le 15 novembre? C'est une petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait réagir.
Il y a des départements où on va être amené de toute façon à alléger un peu les contraintes en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc on va faire ça comme d'habitude avec pragmatisme.
Mais le président de la République s'est-il un peu trop avancé hier? La réaction du ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin sur RTL.
Lorsque la quatrième vague portée par ce variant Delta a commencé, nous avons mis en place des mesures de protection des Français et lorsque le variant Delta circulera moins et que nous serons, je dirais, hors d'atteinte de cette vague, alors nous pourrons lever un certain nombre de contraintes progressivement et probablement dans les territoires, en commençant par les territoires les plus verts.
Alors le pass sanitaire stop ou encore 3210 3210 sur votre téléphone.
Flavienne, donc, qui habite Mérignac et qui a quitté son poste d'enseignant. Flavienne.
Tout à fait.
Rappelez-nous les circonstances et dites-nous où vous en êtes aujourd'hui.
Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'éducation nationale et je suis bien soulagée.
Voilà. Vous faites quoi?
Mais pour l'instant, je réfléchis à une reconversion professionnelle, sûrement dans l'immobilier.
Mmh. Voilà. Ah oui, ça n'a rien à voir.
Ah non, ça n'a rien à voir. Non, en plus, en sachant que je peux déjà parfaitement comparer, parce que pour moi, devenir enseignante, c'était déjà une reconversion. Donc, je sais que ce que c'est de travailler dans le privé. J'étais secrétaire de direction avant, et je peux clairement comparer.
Et vous étiez prof de?
Moi, j'étais professeur des écoles et directrice d'école. Mmh. J'avais les deux casquettes, parce que quand vous êtes directeur d'école, vous êtes aussi très 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 souvent aussi enseignant en classe.
Hein. Dans quel type de quartier vous étiez?
Alors moi, je n'ai fait que les quartiers qu'on appelle compliqués, les quartiers ZEP. Voilà, mais ça, c'était un choix de ma part.
Bon, et pourquoi vous avez arrêté?
J'ai arrêté parce que ça n'a ni queue ni tête. Je me suis demandé ce que je faisais là, en fait, au bout d'un moment. Je me suis dit que... Enfin, j'avais pas signé pour ça. Votre collègue en a parlé, enfin, l'autre auditeur en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai pas du tout signé pour ça. J'ai pas signé pour remplir des tonnes et des tonnes d'administratifs qui n'ont aucun sens.
Mais alors, c'est quoi? Moi, j'aimerais toujours des exemples concrets. C'est quoi des tonnes et des tonnes?
Des tonnes et des tonnes, c'est-à-dire que vous en avez tout le temps. Par exemple,
oui,
vous avez tout le projet de sécurité de l'établissement à faire. Vous avez, par exemple, je plains grandement tous les directeurs qui ont dû gérer la situation Covid, parce que ça change toutes les 3 minutes. Mais vous avez tout un établissement à faire bouger. Vous devez remonter les effectifs, vous devez remonter les évaluations, vous devez remonter tout ce qui se passe sur le bâtiment, fenêtres, enfin voilà, tout ce qui est problème lié au bâtiment lui-même. Vous devez remonter tous les problèmes qui s'agit au niveau du personnel.
Quand vous dites vous devez remonter, ça veut dire quoi remonter? Vous devez prévenir votre hiérarchie de ce qui se passe dans votre école?
On doit gérer. Ah oui. Ah bah de toute façon, moi, le directeur d'une école primaire n'est pas responsable hiérarchique de qui que ce soit. Hein. Ça, il faut que ce soit bien clair, que ce soit... Voilà. Donc, vous remontez à l'inspecteur et qui, très souvent, le pas de vague est une réalité. Pas de vague. Voilà.
Bon, mais quand vous étiez dans l'école, dans la classe plus exactement, vous aimiez ce moment de transmission avec les élèves?
Ah, excusez-moi, ça a coupé, je vous ai pas entendu.
Quand vous étiez dans la classe... Vous aimiez le moment de transmission avec les élèves?
Allô?
Ah, écoutez, la transmission, manifestement, là, elle ne passe pas. Oui, c'est moi. Je disais, quand vous étiez dans la classe, est-ce que le moment de transmission vous plaisait?
Est-ce que...
Ah
oui, donc là, effectivement, Flavienne nous a quittés momentanément.
Oui, momentanément.
Benoît voulait réagir. Benoît est prof de maths et je crois que Benoît, vous intervenez parfois. Je me demande si vous n'êtes pas dans l'Est de la France.
Je suis dans le grand nord de la France. Je suis pas très loin de la frontière belge à Lille.
Voilà. Et vous nous appelez régulièrement. Vous êtes prof de maths et vous vouliez réagir à ce que disait Marc tout à l'heure, qui est resté là d'ailleurs, sur le thème qui m'a surpris, qu'on puisse être prof de maths en CAPES avec une note de 5. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus, Benoît ?
Mais Pascal, c'est la stricte vérité. C'est un concours. Donc, si c'est un concours et qu'il y a 100 postes, on va prendre les 100 premiers au classement. Et si le dernier, il a 5 de moyenne, il a 5 de moyenne.
Mais 5 de moyenne, ça veut dire qu'il est très mauvais.
Ah ben, et
bah, c'est mieux de mettre un prof de maths très mauvais.
Un départ en retraite doit être remplacé. Il faut bien mettre quelqu'un à la place. Alors parfois, on s'autorise en disant quand la note est vraiment trop mauvaise, on ne va pas le recruter. Mais oui, il faut toujours un dernier du classement. Ce n'est pas un examen, c'est un classement. Donc, c'est un concours, donc il y a forcément...
Mais les autres, c'est des pires alors ?
Comment ?
Les autres, c'était pire ?
Les autres, parfois, sont pires, oui, oui. De toute façon, le concours du CAPES, par exemple, se fait en deux temps. Vous avez d'abord des écrits, ce qui fait déjà une première barre. Mmh. Ensuite, vous allez à un oral, ou même à des oraux, plutôt. Vous passez ces oraux, et à partir de là, s'établit un classement. Voilà, cette année, j'ai une stagiaire en responsabilité. C'est une dame, vous voyez, on est exactement en train d'en parler. Elle en est à son troisième métier. Elle a commencé par être ingénieure, ça lui a plu à un moment. Elle est passée professeure des écoles, et là, en mai dernier, elle a réussi son CAPES interne, et à 50 ans, elle devient professeure de mathématiques, et c'est ma collègue, et je l'ai en responsabilité, c'est-à-dire que je m'en occupe pendant toute l'année.
Je ne connaissais même pas ce terme de « en responsabilité », mais c'est souvent un terme qui est employé par le Premier ministre, d'ailleurs, en responsabilité, je dis.
En responsabilité.
Voilà, bon, voilà. Donc vous allez l'accompagner.
Je vais l'accompagner toute l'année.
Vous êtes prof depuis combien de temps, Benoît ?
Je viens de finir ma 30e année scolaire, fait ma 31e rentrée.
Et on dit toujours que c'était mieux avant, mais il faut se méfier de ça, parce que nous-mêmes, parfois, on est victime de ce type d'analyse et on peut se tromper. Mais vous avez le sentiment, par exemple, qu'un professeur de maths qui commence à 22 ou 23 ans aujourd'hui est moins performant que vous ne l'étiez il y a 30 ans ?
Le métier a énormément changé et voilà à peu près une petite dizaine d'années que je me dis si c'était à refaire, je ne referais pas ça. Mais là, que voulez-vous que je fasse à 52 ans et 30 ans de métier derrière moi ?
Ah bah on peut toujours faire autre chose.
À peu près 1500 copies par an et dispenser des cours et en effet être connecté en permanence sur l'ENT, mettre des devoirs sur Pronote.
Mais vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites aujourd'hui ?
Si
quand même, vous aimez vos élèves ?
Je suis encore très heureux, j'adore mes élèves et je multiplie les cours. Vous savez, on est passé aussi à la situation où un prof devait, alors quand vous dites 18h, oui, il doit 18h devant les élèves, 18h de show, je l'ai déjà dit à votre antenne. À côté de ça, il y a toutes les corrections. Mais à l'époque de mon temps, de votre temps, du temps, il y a des années de ça, un professeur, il avait peut-être 3 classes, un prof de maths, parce qu'il faisait 6 heures par classe. Là, cette année, rien qu'au lycée où j'enseigne, j'ai 7 classes. Parce que j'ai des horaires à 1 heure, 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Vous savez, c'est un moyen, toute réforme est budgétaire. Quand on commence à enlever des heures de maths en terminale, par exemple, ou à les rendre facultatives...
Ah, ça m'intéresse, votre emploi du temps, par exemple. Vous pourriez nous dire, le lundi, par exemple, vous avez combien d'heures ?
Lundi, j'ai 6 heures de cours.
Consécutives ?
Ou 4 heures et 2 heures.
D'accord. 4 heures le matin, 2 heures l'après-midi.
Ouais, tout à fait.
Le mardi ?
Le mardi, j'en ai 4 qui s'étalent sur la journée, avec des heures de trou systématiquement entre les deux.
Donc 4 heures de cours. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous allez en permanence, comme on disait
jadis ? Vous restez dans la salle des profs, voilà. Vous êtes éventuellement en train de corriger des copies, vous êtes en train de gérer des problèmes administratifs.
Le premier cours est à quelle heure le mardi ?
Pardon ?
Le premier cours est à quelle heure le mardi ?
Le premier cours est à 8h15.
Ouais, donc il faut quand même que vous soyez là à 8h15. Donc on est à 6 et 4.
J'adore ouvrir le lycée à 7h15.
Donc on est à 6 et 4, ça fait 10h. Le mercredi, combien d'heures ?
Le mercredi, 2 fois 1 heure, avec un trou en plein milieu.
Ah oui, bon, là c'est léger le mercredi quand même.
Ouais.
Bon, 2 heures de cours, ok. Le jeudi ?
Le jeudi, j'ai 7 heures de cours, dont 5 heures d'affilée le jeudi après-midi.
Ah oui, ça c'est rude.
Ah oui.
Donc 6 et 4, 10 et de 12, on est à 19 heures de cours, là on est à 19 heures.
On est à 19h de présence devant les élèves, oui.
Oui, bah, de cours, oui. Et le vendredi ?
Oui, Le vendredi, je suis, entre guillemets, pas au lycée. Moi, comme j'adorais dire à un proviseur qui nous taquinait quand on disait «
Vous travaillez quand même 4 jours par semaine et 19 heures dans la semaine. »
Je disais « Mon emploi du temps prévoit que je ne sois pas en présence d'apprenants le vendredi. »
D'accord. Non,
mais à côté de ça, je corrige les copies.
Après, chacun en miroir vous écoute et en miroir voit sa propre vie. C'est vrai que vous avez vendredi, samedi, dimanche, 3 jours,
oui.
Et que vous travaillez 19 heures dans la semaine. Il y a évidemment
à
préparer...
Pascal, 19 heures de présence devant
les élèves.
Oui, vous
avez raison. Mais bon, en ce moment, vous n'avez pas encore corrigé de cours.
Si. Hier, j'ai corrigé des devoirs maison, et ce matin, j'ai corrigé des devoirs maison, et ce matin, j'ai fait une interro, donc ça va continuer. Je continue de corriger.
Mais je trouve que, attention, hein, c'est un grand métier, prof. Hein, c'est un métier très noble, c'est un métier formidable qu'il faut valoriser, bien évidemment. Mais il y a parfois, effectivement, des difficultés. Et puis, il y a aussi parfois, comme dans tous les jobs, hein, bien sûr, des avantages. Bon, merci Benoît. Merci, c'est passionnant de rentrer vraiment comme ça dans la précision des choses. Un des plus brillants élèves, disons-le, des mathématiques modernes, depuis quasiment...
On n'a pas eu le dernier de la classe, nous ?
Ah ben non, mais non. Depuis Newton, c'est Olivier.
Ah, Newton, voilà.
Oui, depuis Newton.
Ah oui.
Mais, et il a eu une carrière en mathématiques tout à fait exceptionnelle.
Ah,
mais
oui.
Pour le moment, il n'est sur Facebook.
Ah oui, que sur Facebook pour l'instant.
Pour le
Donc
moment.
Sur nos réseaux
mais
sociaux.
Mais il fait des équations.
Oui, beaucoup, beaucoup, Pascal, pour essayer de durer dans cette émission.
Ah, vous savez ce qu'a trouvé Newton, par exemple.
Allez, donc les messages sur nos réseaux sociaux.
Allez-y,
Polo
allez-y,
nous écrit à l'instant. Allez-y. Donc autant de démissions, ne m'étonne pas. Les professeurs ne sont pas considérés ni respectés. Michel nous confie, quand j'étais élève, nous ne répondions jamais aux professeurs, alors qu'aujourd'hui, même les parents les remettent en question. Pour Gilles, on met la lumière sur les démissions de ce corps de métier, mais ce n'est pas la seule profession concernée, on conclut avec 2000. C'est le résultat de la politique de l'enfant roi.
On va faire un petit test mathématique, cher Olivier. 1040 et 1040.
Ça fait à peu près 2080, il me semble. Hein.
Et 10.
Pardon ?
Et 10.
Alors là, Pascal...
2080 et 10.
2090.
Et 10.
Et 3000 ?
Non, 2100.
Oh là là.
Eh oui !
Eh
oui ! C'était une fin, c'était un piège.
Oh non, j'avais pas de calculatrice, Pascal.
Bah oui, évidemment.
Oh non.
Bah oui, mais
c'est pas possible.
C'est pour ça que je le fais en même temps, parce que je sais qu'il y a un piège.
Newton doit avoir honte, il va m'appeler après, je pense.
Newton, bon. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier. Vous allez pouvoir répondre à cette question dans quelques minutes. Les salaires sont-ils trop bas en France ? Selon un baromètre du pouvoir d'achat Cofidis réalisé par le CSA, les Français estiment qu'il leur manque 467 euros chaque mois pour vivre sans se soucier du budget. Les fins de mois sont-elles plus difficiles aujourd'hui ? 32-10. Et puis alerte polémique. Lundi, un message de la mairie de Rosay, en Loire-Atlantique, sur son site et Facebook destiné aux habitants, a fait du bruit. Après une hausse des vols à l'arraché, la ville avait recommandé d'éviter de porter de façon visible des bijoux sur l'espace public, notamment ceux en or. Le message a été supprimé quelques heures après et hier soir, la municipalité a reconnu une maladresse dans la formulation du message, mais quand même, ça peut vous faire réagir.
Rosay-lès-Nantes.
Rosay à côté de Nantes.
Exactement. Vous pouvez nous appeler, évidemment, sur ce sujet comme sur d'autres. Flavienne, vous étiez restée jusque là, mais on a terminé effectivement notre séquence prof, sauf si vous voulez dire un petit mot.
Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui y sont encore. Et par rapport aux chiffres qui sont avancés, oui, effectivement, ça peut sembler peu, mais moi je tiens à dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aimeraient partir, mais qui ne savent pas comment partir.
Bah parce qu'après, il faut trouver effectivement de quoi vivre. Est-ce que vous donnez des cours particuliers, Flavienne ?
Non.
Parce que nous avons un élément dans notre équipe qui est demandeur de cours particuliers de mathématiques, Olivier. Donc si vous souhaitiez s'occuper de lui, ça nous arrangerait.
Ça serait avec grand plaisir.
Voilà.
Bon, ça marche.
Merci beaucoup, Flavienne, et bonne journée du côté de Mérignac.
Excellente journée à vous.
Merci. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Les salaires sont-ils trop bas en France ? Et c'est vrai qu'on a le sentiment que le pouvoir d'achat baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a 40 ans, on n'était pas obligé d'acheter un téléphone portable pour les enfants, un ordinateur, un abonnement Wi-Fi. Toutes ces choses qui ont augmenté le budget dit
contraint. Il y a des choses, vous ne pouvez pas dire à un enfant aujourd'hui qu'à 14 ou 15 ans, je vais pas te payer un téléphone. C'est quasiment impossible. Donc, effectivement, on serre sur d'autres budgets parfois, mais le pouvoir d'achat baisse. Alors, Benoît est ouvrier agricole. Bonjour.
Bonjour Pascal, vous allez bien ?
Et vous ?
Ça va, nickel.
Quel est votre sentiment sur cette question ?
Oui, c'est vrai que financièrement, on s'en sort pas. Même en travaillant, on peut pas s'en sortir. Parce que quand on voit, comme moi, je touche 1 220 € le SMIG, et quand vous avez 840 € de charges, vous vous dites, mais alors, on travaille juste pour payer nos factures, quoi, en fait.
Vous avez des aides ?
Non, l'APL, avec la nouvelle réforme qu'ils ont fait cette année, on n'a pas d'APL.
Parce que Martial You disait tout à l'heure que les petits salaires sont parfois aidés, il y a des coups de pouce, des choses comme ça.
C'est ce monsieur-là que je n'avais pas retenu son prénom quand je vous ai écouté. Non, on n'a pas le droit aux aides quand on est salarié. Alors là, et même là, vous dites Internet. Voilà, Internet, on nous oblige. Pourquoi on nous oblige Internet ? Il faut faire toute l'administration par Internet. Donc il faut obligé de prendre un abonnement.
C'est combien l'abonnement pour
40
vous
euros chez Orange.
Ouais, mais c'est voilà, de l'argent, 40 euros.
Oui, et en plus, on paye même la télé, on paye une taxe audio de 138 euros chaque année en sachant qu'on l'a dans l'abonnement Internet. Voilà, c'est. On paye deux fois la télé, deux fois les radios, parce que d'un côté ou d'un autre, la taxe audiovisuelle, ça va pour tout le monde.
Vous vivez seul, Olivier ?
Benoît.
Benoît, pardon. Pardonnez-moi, oui. Vous vivez seul, Benoît ?
Oui. Là, on entend parler l'augmentation 34 euros brut du SMIC. Ça fait quoi ? 27 euros net. Franchement, c'est monstrueux par mois, 27 euros, en sachant que les pâtes augmentent de 8% cette année.
Alors, concrètement, quelle est la part que vous octroyez au loyer ou je ne sais pas, ou au remboursement d'un prêt je ne sais pas si vous êtes propriétaire ou...
Voilà, le loyer c'est 430, l'assurance habitation 35, Internet c'est 40, les mutuelles c'est 50, pour le mois c'est 80 euros d'essence, 17 euros pour le téléphone, l'EDF c'est 60 euros, l'eau c'est 50 euros. Voilà,
chaque centime, chaque si j'ose dire, est compté.
Oui.
Le loyer de 440 euros, avec 440 euros, qu'est-ce que vous avez dans l'endroit où vous êtes ?
On a tout, on a chauffage.
Oui, mais vous avez quoi ? Vous êtes dans un appartement ou dans
une maison ? Non, une maison en campagne, oui.
Une maison de combien de mètres carrés ?
80.
Ah oui, quand même, c'est une maison importante pour 400...
On est dans un village de 500 habitants que je vis, donc ça, c'est pas énorme.
Donc là, vous êtes en location ?
Oui. Non, c'est vrai que l'argent qu'ils proposent, par rapport à ce qu'ils disent, 400, oui. Parce que là, actuellement... Je vais être obligé de demander un acompte de 400 euros à mon patron pour finir le mois, quoi.
Et votre patron, lorsque vous parlez avec cela de vos difficultés financières, que dit-il ?
J'en ai un qui est très gentil, donc ça va, il va pas dire non, mais c'est un engrenage. Parce qu'on va dire 1200 à chaque fois, en fait, c'est un engrenage, en fait. Parce qu'on demande un acompte, mais ça va être déduit sur le mois d'après. Donc en fait, c'est un engrenage qu'on tourne... chaque mois, quoi.
Mais si vous
mois,
lui
quoi.
Demandiez, par exemple, une augmentation de 100 ou de 150 euros, il est...
il n'est pas embêtant. Je peux lui demander ce que je veux en acompte. C'est pas embêtant.
Non, mais pas en acompte, en augmentation définitive.
Je vous dirai pas le geste qu'il fait. Hein.
C'est-à-dire ?
Le troisième doigt.
Ah oui, oui.
En rigolant, bien sûr, il le fait en rigolant.
Alors, je vais vous dire, aucune plaisanterie n'est innocente. Ça, c'est la base. Mais on va continuer la discussion, Benoît, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec un salaire aussi faible. Et vous allez me dire si, par exemple, vous avez quelques loisirs quand même. Mais après la pause, on revient.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur...
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et on termine donc avec Benoît, qui gagne 1 220 €. Et notre question, c'est les salaires sont-ils trop bas ? Et évidemment, Benoît, il dit oui. Vous avez 840 € de charges, donc il reste 400 euros. Ces 400 euros par mois, vous les consacrez à quoi ?
Moi, j'ai des animaux, donc il faut compter déjà les animaux, la nourriture alimentaire. Pour eux. Plus, on va dire, comme on dit, les pommes de terre, faire les courses, quoi, en fait.
Alors, vous ne comptiez même pas dans les charges la nourriture ?
Non. Non, c'est ce qui me reste pour manger pour le mois.
Bon, donc vous n'allez jamais, par exemple, au restaurant ?
Non, je fais seulement quand je fais les jeux concours. Voilà, si je gagne un séjour, je suis content parce que je n'ai pas les moyens d'y aller. Et voilà,
Vous n'êtes pas parti en vacances cet été ?
Pas cet été, on travaille. Dans l'agriculture, on travaille l'été.
Oui, mais vous prenez des vacances ?
Non, je reste à la maison le reste du temps, quoi. Non, on peut pas. C'est pour ça que, ouais, l'aide qui dit qu'il manque 427 euros, oui, on pourrait profiter, dire, tiens, faire un restaurant, partir en vacances, ou aller au cinéma, même au cinéma, pour moi, 7 euros une place de cinéma, c'est trop cher.
Quel âge vous avez, Benoît ?
J'ai 42 ans.
Et quel avenir vous voyez ?
Moi, ça fait quelques années que je vois l'avenir. À part travailler, rester chez soi, c'est juste ça, en fait. Faire un peu de course une fois par semaine, parce que comme les budgets ils augmentent énormément au niveau alimentaire, voilà, et personne ne nous aide, quoi. Personne ne nous dit, oui...
Mais il n'y a aucune possibilité pour vous, soit d'avoir, de gagner mieux votre vie, soit de progresser dans le métier que vous faites.
Non, dans l'agriculture, à part être ouvrier, après c'est être patron.
Et pour être patron, il faudrait investir et avoir de l'argent, et on,
voilà.
C'est
et
compliqué.
Banques, pas, même les banques ne suivent pas, ils voient qu'avec ce qu'on touche, ils disent, voilà, même nous un découvert, on ne peut même pas demander un découvert à la banque, que je ne peux pas.
Depuis combien de temps vous travaillez ?
Moi, ça fait 9 ans que je travaille dans la société où je travaille en contrat occasionnel de 5 mois. Et voilà, on peut pas. Même là, le Covid, le monsieur qui parlait dans votre reportage, qui dit qu'il y avait des aides, mais non, les aides, les salariés n'y avaient pas le droit. C'était les gens qui étaient en chômage qui avaient le droit à cette aide. Comme là, les 100 euros qu'on donne à la prime énergétique, à la fin de l'année, j'ai pas le droit parce que j'ai travaillé 5 mois.
Bon,
pourtant, c'est pas grand-chose, 1300. Ils prennent pas les charges en compte, quoi.
Je trouve d'abord la qualité de votre témoignage intéressante et pour tout dire formidable, la manière dont vous en parlez également. C'est vrai qu'on cherche des solutions dans un domaine en plus où effectivement c'est pas simple parce que le domaine agricole, on sait que lorsqu'on est ouvrier, c'est compliqué hein, en termes de salaire. Mais merci pour la qualité de ce que vous avez dit, pour la pudeur également de ce que vous avez dit, Benoît. Merci beaucoup.
C'est quelqu'un du gouvernement qui nous écoute. Au lieu d'augmenter le SMIC de 34 euros, qu'on dise à la France, on supprime la taxe audiovisuelle. Ça fera 138 euros pour chaque famille en France.
Merci Benoît. Il est 13h56. Jean-Alphonse Richard qui vient tous les jours à cette heure-là écouter les auditeurs. C'est formidable d'écouter Benoît.
C'est toujours très instructif et les auditeurs disent la vérité. C'est leur vérité, mais elles s'écoutent et elles se commentent et c'est tout à fait passionnant. Je suis d'accord avec vous. C'est une vraie richesse qu'on a à RTL. Aujourd'hui, Pascal, on va aller à Lille. Je vous emmène dans la capitale des Flandres avec une histoire qui a frappé les imaginations dans les années 80-90. C'est l'affaire Denis Waxin. Il va falloir 14 ans pour arrêter cet homme qui semait la terreur dans les quartiers sud de la ville. 3 meurtres et 3 viols de petites filles, 6 viols aussi d'enfants par ailleurs. Donc c'est un personnage épouvantable. On va découvrir ce portrait lorsqu'on va l'arrêter. Et je vous dis pas comment il a été arrêté parce que c'est un vrai coup de chance. Peut-être aujourd'hui, ce Denis Waxin n'aurait jamais été identifié. Vous verrez, c'est spectaculaire.
14h, ce sera le rappel des titres. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes.
RTL. Il est 14h pile. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Et d'abord, ce coup de froid dans les relations entre la France et l'Australie. Après avoir signé un contrat pour l'achat de 11 sous-marins français, Canberra a finalement fait volte-face et préféré des engins américains. Une décision dénoncée par la ministre des Armées, Florence Parly, à la mi-journée.
C'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est une remise en cause de la parole donnée. Il s'agissait d'un contrat qui avait été passé il y a plusieurs années, hein, il y a 5 ans. Donc c'est une énorme déception, d'autant plus que cela fait 5 ans que toutes les équipes travaillent d'arrache-pied pour la bonne mise en œuvre et le bon déroulement de ce contrat d'ampleur. Donc l'Australie remet en cause sa propre parole, mais je l'ai dit, nous protégerons nos intérêts et nous les défendrons.
Florence Parly au micro RTL d'Émilie Beaujard, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dénonce de son côté un coup dans le dos. La ministre des Armées qui s'était auparavant félicitée de la mort d'Al-Sarraoui, le chef de l'État islamique au Grand Sahara, abattu par les forces françaises au mois d'août. C'est un coup décisif porté contre le groupe terroriste au Sahel, estime Florence Parly. La moitié des magasins Marks & Spencer en France vont fermer dans les prochains mois, 11 boutiques au total, décision annoncée à la
mi-journée par l'enseigne britannique, la faute au problème d'approvisionnement lié au Brexit. Mieux protéger les 3,5 millions de travailleurs indépendants en France, voilà l'objectif du plan présenté par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, leur patrimoine personnel ne pourra plus être saisi en cas de défaillance. Par ailleurs, les critères d'accès à l'assurance chômage vont être assouplis. 3,000 soignants suspendus, quelques dizaines de démissions. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dressé ce matin sur RTL un premier bilan après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé. C'était hier. Elle concerne, je vous le rappelle, 2 700 000 salariés. Le football et les débuts de trois clubs français en Ligue Europa. À 18h45, Lokomotiv Moscou-Marseille, puis Monaco Sturmgrass et Glasgow Rangers-Lyon à 21h. Le Stade Rennais, de son côté, fait ses premiers pas dans une toute nouvelle compétition, la Ligue Europa Conférence. Ce sera face à Tottenham à 18h45. La météo demain et cette amélioration sur la plupart des régions, ça restera très gris tout de même en matinée avec quelques gouttes ici et là. Dans l'après-midi, c'est le soleil qui domine sur une bonne partie du pays, pas sur les reliefs où l'on aura un petit risque d'averse et même d'orage sur les Alpes du Sud. En Bretagne, le ciel sera là aussi bien couvert avec de la pluie. Les températures demain matin en baisse, 8 à 15 degrés en général, jusqu'à 20 degrés près de la Méditerranée. Les courses à Longchamp ce soir, départ à 18h20. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 16, le 6, le 8, le 13, le 3 et le 4. Sa dernière minute, c'est le numéro 8. Électron libre, RTL, 14h03. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Sébastien, 14h03.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les salaires sont-ils trop bas en France? Nous sommes avec Brigitte qui est aide ménagère en Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Quel est votre avis sur cette question?
Mais écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que quand Madame Aubry nous a dit qu'on allait passer aux 35 heures, je n'ai pas le souvenir que qui que ce soit et manifester dans la rue. Seulement, on a tellement bien enrobé les choses et on a tellement, excusez-moi de l'expression, baisé la gueule des travailleurs qu'on leur a dit « Mais c'est formidable, vous allez travailler que 35 heures au lieu de 39. » Mais ce que les gens n'ont pas réfléchi, c'est qu'en fait, on leur a tous passé les contrats à 35 heures. Et qui a été le dernier dans l'histoire? C'est le travailleur.
Mais
aujourd'hui, parce que vous savez bien comme moi que quand on veut des loisirs, ça coûte cher. Mmh. Hormis si on prend ses baskets et qu'on va courir. Mais entre nous soit dit, les trois quarts des gens, c'est pour eux les loisirs, c'est pas ça. C'est pas aller courir, c'est aller à la montagne.
Ça, c'est déjà un loisir très cher, aller à la montagne.
Ben, bien sûr.
J'espère avoir d'autres loisirs plus abordables.
Oui, mais c'est tous les loisirs qui coûtent relativement cher.
Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais par exemple, selon le 10e baromètre du pouvoir d'achat, c'est Cofidès, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, réalisé par l'Institut CSA, 39% des Français, soit près de 4 personnes interrogées sur 10, affirment vivre moins bien que lors de la précédente décennie. Est-ce que vous diriez cela, Brigitte?
Mais forcément. Est-ce que vos parents, puisque nous sommes à peu près de la même génération, auraient payé une baguette de pain 6 francs?
Non, mais les salaires aussi ont augmenté. Ce qui est intéressant, ce qui est très difficile, c'est... ce qui est très difficile, c'est de savoir ce qu'on pouvait faire dans les années 70 et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un SMIC, par exemple.
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se crée des besoins qui sont inutiles.
Oui, mais il y avait des choses plus chères en même temps. C'est pour ça que, par exemple, une télévision, aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose, disons-le, pas grand-chose.
Une télévision,
ça peut coûter...
Est-ce qu'on est obligé d'en avoir une?
Franchement,
mais ça, avec tous les médias.
Pardonnez-moi, mais c'est, Brigitte, c'est un autre problème. La télé dans les années 70, c'était très cher. C'était très cher. Je peux vous dire qu'une télé couleur, quand on faisait rentrer une télé couleur dans une famille, c'était très cher.
Bon. Oui, bien sûr.
Bon, de la même manière, il y a des choses qui sont un peu. Les habits sont plutôt moins chers aujourd'hui que dans les années 70. Vous allez,
oui,
je ne vais pas citer des grandes. Je ne vais pas citer des grandes enseignes, mais
non,
moi,
Je suis frappé. Ils sont moins bonne qualité.
Oui, mais je suis frappé.
Le coton d'il y a 30 ans n'est pas le coton d'aujourd'hui.
Brigitte, je suis frappé. remarqué qu'on peut s'habiller parfois, et notamment chez les jeunes femmes, pour 10 euros, 15 euros, une robe. Je trouve ça absolument incroyable, pour tout vous dire, que les prix soient si bas.
Aujourd'hui, une robe qu'on paye 10 euros va pas vous durer 20 ans.
Non, mais bon, comme vous l'aurez payé 10 euros, d'un autre côté, vous voyez ce que je veux dire. Par Internet, tu peux choisir et faire venir chez toi aujourd'hui des souliers, des chemises, des robes à des prix...
Et n'importe quoi. Et après, on se plaint parce qu'il n'y a pas la qualité. Alors certes, le prix n'est pas là, mais une paire de mocassins ou de derby comme vous portiez il y a 20 ans, vous durez combien d'années ? Vous la faisiez ressembler parce que vous l'aviez payé un certain prix. Aujourd'hui, on ne fait plus ressembler une paire de chaussures, mais on la jette.
Bon, qui vous paye, vous, aujourd'hui ? Vous avez un patron ?
Moi, je suis en partie auto-entrepreneur, c'est-à-dire que je suis payée par les CESU, par des particuliers qui m'emploient, et par une société.
Et vous trouvez que vous gagnez bien votre vie ?
Oui.
Donc ça vous permet d'avoir la vie que vous souhaitez avoir ?
Oui, vous savez... Plus vous gagnez d'argent, plus vous avez envie d'en avoir. Moins vous en avez. Et vous vivez à votre rythme. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais connu ce que c'était j'arrive plus à trouver le mot.
Vous allez les trouver tout de suite après la pause. Je suis sûr qu'ils vont revenir. À tout de suite, Brigitte.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Et une autre question se pose, mesdames, messieurs. Magique, vous êtes sûr ?
On va rester là sur ce score de parité. Un but partout entre Bruges et le Paris Saint-Germain. Le collectif n'est pas du tout encore au rendez-vous du côté du Paris Saint-Germain. La saison n'a pas franchement commencé et ce partage des points est tout à fait logique.
Des débuts décevants du PSG en Ligue des Champions, le trio Messi, Neymar, Mbappé n'a pas brillé. Alors, supporters parisiens, dans quel état d'esprit êtes-vous ? 32-10, 3-2-1-0.
Brigitte, pour conclure sur cette séquence salaire,
oui.
Brigitte.
Donc oui, effectivement, j'avais pas d'argent de poche quand j'étais enfant. Ça m'a pas empêché de vivre et de manger à ma faim. Mais par contre, oui, effectivement, j'ai commencé à travailler, à garder des enfants, j'avais 11 ans et demi.
Mais Brigitte, ce qui est difficile aujourd'hui...
Aujourd'hui, très peu de jeunes travaillent à 16 ans. Dans le temps, on travaillait l'été pour avoir un peu d'argent de poche. Maintenant, c'est terminé, ils ont tout ce qu'ils veulent.
Non, ça, pourquoi c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai.
Je
connais plein d'enfants de 18, 19, 20 ans qui sont serveurs, qui bossent l'été.
Mais à 14 ans, vous pouvez commencer à travailler 16 ans, deux mois d'été.
Ah oui, à 14 ans, non, mais à 18 ans, 19 ans, 20 ans, il y a plein de gosses que je vois l'été qui travaillent, qui sont serveurs. Et c'est pas lié d'ailleurs parfois au revenu des parents, c'est une question d'état d'esprit.
C'est une question d'éducation.
Exactement.
Et on en revient toujours à la même chose.
Ah, je suis d'accord avec vous. Tu ne donnes pas de l'argent à tes enfants
partout.
Comme ça, même si tu as les moyens.
Non,
tu les fais bosser.
Bien sûr. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais l'éducation vous mène partout. Et dans tous les cas, et dans toutes les situations.
Mais merci Brigitte. On va terminer avec Renaud ce sujet. Renaud, bonjour Renaud.
Bonjour.
Vous êtes pizzaiolo.
Je suis en pizzeria. Ouais.
Bah c'est sympa ça.
C'est cool.
Bah c'est cool. Bon, est-ce que vous êtes content de votre salaire ?
Ouais, je suis content de mon salaire. Si la vie coûtait moins cher, je serais content de mon salaire. Ouais.
Oui. Qu'est-ce qui coûte cher ?
Bah tout, hein. Tout, les loyers, l'électricité, l'eau, la vie.
Vous habitez où ?
J'habite en Bretagne.
Bon, le loyer, par exemple, en Bretagne, c'est combien ?
Bah, pour une maison de 110 mètres carrés, moi, je suis à 750 euros par mois. Avec une partie prise en charge par la CAF. À une centaine d'euros, quoi.
Vous êtes en couple ou vous êtes tout seul ?
Non, je suis marié, j'ai 4 enfants.
Ah oui ?
Ouais.
Et votre femme, elle... 4 enfants à 33 ans ?
Ouais, bah, ça va.
Moi, je vous félicite.
Ah bah ça va, la première j'avais 18 ans.
Bah c'est super. Ouais, et votre épouse, elle travaille ?
Non, elle est à la recherche d'un emploi, elle s'occupe des enfants.
Oui, ouais. Ça c'est sûr qu'avec quatre enfants.
Ah ouais, il y a du boulot.
Donc forcément, il n'y a qu'un salaire
ouais.
dans la famille.
Ouais.
Bon, et là vous n'êtes pas patron, vous êtes employé,
ah non, du tout,
salarié.
Non, moi, je suis employé, ouais. Je suis salarié.
Donc vous n'êtes pas en salle, c'est vous qui faites les pizzas.
C'est ça.
Bon, c'est indiscret de vous demander votre salaire.
Je suis à peu près 1250 euros par mois.
1250 ouais. euros et il ouais, faut faire vivre 6 personnes.
C'est ça.
Alors il y a des aides quand même, vous avez des allocations familiales avec 4 enfants.
Oui, évidemment. Mais en tout et pour tout, on ne dépasse pas 2000 euros par mois.
En tout et pour tout, il y a 2000 euros de revenus. Il y a 800 euros d'allocations familiales et d'aides quelconques.
À peu près, ouais. C'est ça.
Bon, et en plus, vous, comme vous n'êtes pas en salle, il n'y a pas de pourboire, il n'y a rien du tout.
Ah non, et puis je travaille pour une enseigne, donc je travaille en grande surface, donc je fais les pizzas sur place et je les vends sur place. Il n'y a pas de salle.
D'accord. Et il y a moyen de négocier, par exemple, votre salaire avec un interlocuteur ?
Non.
Il n'y a pas d'augmentation jamais ?
Non, c'est le salaire de... Il y a l'augmentation quand il y a l'augmentation du SMIC, et puis on a les avantages avec notre taf. On a 14 mois de salaire à peu près.
Ah ouais. Bah oui, mais il faut tout dire, Renaud, c'est important, dis, donc bon, ça augmente le salaire mécaniquement mensuel.
Bah, mécaniquement mensuel, ça vous met à 1004 par mois, quoi. C'est pas
ouais, mais je suis
mois,
d'accord avec vous, mais incroyable. Là, chaque euro est important.
Oui,
mais quand vous renégociez, par exemple, quelles sont...
Les primes que vous allez toucher le 13e mois, par exemple, ou la prime de part, vous allez le toucher une fois au mois de juin, une fois au mois de décembre. Mmh. Si vous voulez faire un minimum plaisir... ou pouvoir payer les retards et tout, vos primes, elles servent à ça. Hein. Bon, par exemple, j'ai dû déménager au mois de mai parce que mon propriétaire revendait sa maison. Ça m'a coûté 2000 euros. Et les 2000 euros, il a fallu que je les emprunte, il a bien fallu que je les rembourse. Donc la prime annuelle, elle est passée là-dedans. Simplement.
Quel est le salaire idéal pour vous qui vous permettrait de vivre le mieux possible ?
Après, ouais, 1500 euros par mois, ouais. Mais ça, c'est vraiment le salaire de base, quoi.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes plutôt à 1002 et à 1005, vous vous dites « je m'en sortirai très
ouais.
bien ».
Ouais. Et du coup, pour m'en sortir, je suis obligé là, de prendre un second emploi.
Vous êtes obligé de ?
De prendre un deuxième emploi.
Et qu'est-ce que vous faites en deuxième emploi ?
Bah, là, je vais commencer là, dans un fast-food.
Dans un fast-food ?
Ouais.
Et vous allez augmenter vos revenus de combien ?
De 250 euros par mois, pour passer à 1005.
D'accord. Voilà. Vous êtes aux 35 heures en pizzaïolo ?
36,75. Donc 36h45 par semaine.
Bah écoutez, merci encore de ce témoignage parce qu'il est formidable,
hein.
Ce témoignage. Une nouvelle fois de quelqu'un qui est engagé et qui fait tout, effectivement, pour c'est travailler. Alors pour le coup, il y avait un slogan célèbre, travailler plus pour gagner plus. Mais vous êtes effectivement dedans. Moi, je trouve dommage, alors je ne connais pas l'entreprise pour laquelle vous bossez, mais je trouve dommage, notamment dans les grandes enseignes, je pense à Leclerc, Auchan, etc., qui gagnent souvent beaucoup d'argent, que les salaires soient si bas. J'ai l'impression...
Ils gagnent beaucoup d'argent à la hauteur du travail qui est fourni aussi. Hein. Après, ils gagnent beaucoup d'argent, oui, c'est bien.
Non, mais je parle des enseignes, c'est des grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, et je me dis que le salaire dans la distribution pourrait être, par exemple, un peu... Alors, le petit artisan qui paye mal ou qui ne peut pas davantage payer ceux avec qui il travaille, je peux le comprendre, mais ces grandes enseignes qui gagnent beaucoup d'argent, elles pourraient de temps en temps faire un effort. Merci Renaud, nous sommes avec Olivier toujours.
Toujours avec Olivier, bien sûr.
Qui témoigne de ce qui se passe sur Facebook.
Exactement, Laurent, à l'instant sur notre page Facebook nous dit « Le coût de la vie augmente tellement aujourd'hui que les salaires ne peuvent plus suivre. » Dans le même sens, Annick nous écrit « Rien ne sert d'augmenter les salaires, ce sont les charges qu'il faut diminuer. » Pour Huguette, après le 20 de chaque mois, ça devient très compliqué de tenir financièrement. Et on finit avec Nicolas, pardon, qui ne partage pas cette position. Pour lui, ce sont les dépenses des Français qui sont trop excessives.
Le syndrome du 20 de chaque mois, qui est un syndrome très connu, effectivement. Merci, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On est tous passés à travers les propos d'Emmanuel Macron. Ils sont très peu commentés, c'était lundi soir, mais il a passé, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, une danse aux athlètes français qui étaient là, leur reprochant le manque de médailles de Tokyo. Alors Philippe est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez écouté le président de la République ? Personne n'en parle, c'est très étonnant.
Absolument pas. Je n'ai absolument pas entendu. Je l'ai entendu parce que quand je suis à la maison, je vous écoute. Donc, Et non, je n'avais absolument pas écouté. Moi, ça m'amuse en fait. parce qu'il a quand même dit à des gens qui ont eu des médailles qu'il fallait avoir plus de médailles.
Vous voulez réécouter, Philippe, un peu ce qu'a dit le président ? Réécoutez, allez, quelques secondes. Allez.
Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité.
Donc c'est assez rude. Ils étaient venus pour partager un bon moment, ils se sont fait engueuler.
Exactement, c'est amusant. Parce qu'en fait, ils se trompent de destinataire. Dans ce cas-là, qu'ils envoient un courrier au président des fédérations en leur disant que dans leur sport, il n'y a pas eu assez de médailles. Ça, on peut comprendre. Et encore, parce qu'il y a des problèmes plus importants à gérer en France, je pense, en ce moment, que les médailles aux Jeux Olympiques. Mais ceci dit, ce qui est très étonnant, c'est qu'il invite des gens pour un moment festif et il leur dit... on n'a pas eu de bons résultats. Donc c'est un peu étonnant.
Oui, puis un ton, une couleur qui n'est pas agréable.
Exactement. Maintenant, complètement, moi je trouve que c'est... Mais c'est ce qui nous fait depuis quelques temps, quoi. Enfin voilà. Mais je trouve que c'est... Et moi, c'est surtout le côté étonnant, c'est qu'en fait, il aurait dû les féliciter chaudement, etc. Et puis on n'est pas au moment des reproches. En tout cas, pas à eux.
Bah merci Philippe, on voulait en parler parce qu'on n'en avait pas parlé depuis lundi soir.
Mais quand vous en avez parlé tout à l'heure, tout de suite j'ai pris mon téléphone, j'ai rappelé en me disant non mais c'est pas possible quoi, enfin je crois que c'est décalé en fait. Je crois que c'est une remarque décalée.
Merci Philippe, le débrief à l'instant avec notre ami Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Les démissions de professeurs ont été multipliées par 4 en 10 ans. C'est une enquête RTL. Albéric, directeur d'école, n'a pas été surpris.
Ce sont des machines à transmettre un programme qui, toutes les 3 ans, est systématiquement modifié. Ces personnes malmenées sont mal payées, mais ne sont même pas considérées dans leur art de transmettre, d'éduquer.
Dans l'émission, nous vous permettons aussi d'écouter des témoignages, des propos sans filtre.
Quand vous étiez dans la classe, est-ce que le moment de transmission vous plaisait ? Allez, donc là, effectivement, Flavienne nous a quittés momentanément.
Ah bah tiens, ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Oui, voilà, on comprend mieux. Les auditeurs ont la parole, une émission internationale ouverte à toutes et tous. Et vous vous êtes posé une question, Pascal.
Pourquoi cette autorité a-t-elle disparu ? Pourquoi plus personne n'accepte l'autorité en France ?
Mais oui, où est l'autorité en classe, par exemple ? Ce n'est pas le cas de notre ami Olivier qui lit vos messages sur Facebook, un jeune homme respectueux, amoureux de la culture générale.
Un des plus brillants élèves, disons-le, des mathématiques modernes, oui. Depuis quasiment Newton, c'est Olivier.
Ah, Newton, voilà.
Oui, depuis Newton. Ah, oui.
L'homme que vous pouvez contacter dans n'importe quel jeu d'argent si vous êtes en difficulté.
Qui veut passer pour un con avec ce soir une grande soirée exceptionnelle ?
Oh, soirée exceptionnelle, on va jouer tous ensemble.
Vous savez ce qu'a trouvé Newton, par exemple ?
Allez, donc les messages sur nos réseaux sociaux.
Ah non, malheureux, vous pensez bien que Pascal ne va pas s'arrêter là. Tiens, on va jouer au juste prix. Allez Olivier, cette fois on y croit, même Damien, notre réalisateur, est avec vous.
1040 et 1040.
Ça fait à peu près 2080, il me semble.
Et 10.
Pardon ?
Et 10.
Alors là, Pascal...
2080 et 10.
2090
et 10.
Et de 3000 ?
Non, 2100.
Oh là là.
Eh oui, c'était une fin, c'était un piège.
Oh non, j'avais pas de calculatrice, Pascal.
Oui, évidemment.
Vous avez réussi, Pascal. Une réaction, Jean-Alphonse Richard, sur les performances d'Olivier ?
C'est le miroir tragique de notre société.
Oui, je vous comprends. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui n'est pas dans la playlist des supporters du PSG.
Ça, c'est très méchant, dites donc.
C'est très bon, c'était gratuit. Hein.
C'était le premier match. Et pourtant, Messi, Neymar, Mbappé, la M&M, ça coûte bonbon. Donc,
Résultat.
Bon, monsieur Jean-Alphonse Richard.
Oui, Pascal.
C'est inépuisable, comme chacun sait, votre domaine, l'heure du crime.
C'est vrai, le crime est permanent.
Mais vous n'avez toujours pas fait un crime du passé pour le moment. Hein. Vous n'avez fait que des histoires contemporaines. Vous m'avez promis des histoires du 16e, 17e ou 18e siècle.
Je tiendrai ma parole. Pas dans l'immédiat, mais je tiendrai ma parole. Pour l'instant, on reste très contemporain. Mais il faut dire que la matière est riche.
Certes.
On va aller dans un instant, à 14h30, on va aller à Lille avec une affaire, il faut le dire, hein, qui a beaucoup, beaucoup marqué les esprits dans la capitale des Flandres. C'est l'affaire Denis Waxin, les années 85 et 99. Trois meurtres et trois viols de petites filles. C'est une histoire incroyable parce que, comme toujours, on découvre un profil lambda, finalement. Hein, une personnalité qui paraît très lisse, très pâle, et puis qui s'avère être un monstre, il faut le dire comme ça. Et on verra surtout comment il a été arrêté, parce que là, l'affaire est extraordinaire aussi. Je ne vous en dis pas plus, parce que vous allez voir, c'est très étonnant.
On va vous écouter avec les auditeurs. Restez bien évidemment à l'écoute, nous, chers Laurent et toute l'équipe d'Amiens Béchiot. On se retrouve demain à partir de 12h30 avec Amandine Bégaud et jusqu'à 14h30 avec les auditeurs.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.